Bonjour cher ami. Aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose que certaines personnes jugeront certainement quelque peu controversé. Je vais sans doute froisser certaines personnes, mais j'espère que ces personnes que je froisserai changeront d'avis après avoir entendu ce message. Si vous aimez la Bible, vous allez aimer ce message, parce que nous allons nous en inspirer. Préparez-vous, nous allons nous plonger dans la parole ensemble.
Bonjour, je suis Bélez Conley. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à l'incertitude, qu'il s'agisse de problèmes financiers, de crises relationnelles, d'un problème de santé ou simplement de la découverte de votre raison d'être. Une chose est sûre, Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses.
Je suis très heureux que vous ayez choisi de vous joindre à moi aujourd'hui. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, ce dont je vais parler est sujet à controverse pour certaines personnes. À moins qu'elles n'aiment la Bible, certaines personnes n'aimeront pas ce message en raison de la position qu'elles ont adoptée à cet égard. Mais vous savez quoi? Je me rends compte que Dieu est plus intelligent que moi. Comme l'a dit le roi David il y a tant de siècles dans le psaume 119, « Toutes tes exigences, je les trouve parfaitement justes. » Nous allons parler des femmes dans le ministère. La question qui se pose est la suivante. Dieu a-t-il déjà oint des femmes pour assumer des rôles de leadership au sein de son peuple? Nous devons nous tourner vers les textes divins et voir quels exemples, s'il y en a, figurent dans les Écritures. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le cas de quelques femmes et nous commencerons dans l'Ancien Testament. La première femme dont je voudrais vous parler est Myriam. C'est la sœur aînée de Moïse. Voici ce que dit la Bible en Michée 6:4. C'est Dieu qui parle. En effet, je t'ai fait sortir d'Égypte, je t'ai délivré de la maison d'esclavage, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. Myriam a été envoyée par Dieu, tout comme Moïse a été envoyé par Dieu, et tout comme Aaron a été envoyé par Dieu, ses deux frères. Dieu n'a pas seulement dit qu'il l'avait envoyé aux enfants d'Israël, mais il a dit « Je l'ai envoyé devant toi ». Elle s'est tenue devant le peuple au même titre que Moïse et Aaron. Après que Pharaon et son armée ont été noyés dans la mer Rouge, ce miracle étonnant qui a eu lieu, les Israélites ont traversé la mer, ils ont vu tous les cadavres des Égyptiens et ils se sont mis à chanter et à se réjouir. L'histoire du beau chant qu'ils ont chanté se trouve en Exode 15. Voilà ce qui est dit en Exode 15, 20 et 21. Alors la prophétesse Myriam, sœur d'Aaron, prit son tambourin. Toutes les femmes d'Israël la suivirent en dansant au son des tambourins. Myriam reprenait devant elle le refrain « Chantez en l'honneur du Seigneur, il a remporté une victoire éclatante, il a jeté à la mer chevaux et cavaliers. » Elle est appelée prophétesse, c'est-à-dire une personne qui s'adresse au peuple au nom de Dieu. Ici, comme nous le lisons, elle est utilisée de manière spectaculaire pour aider à tisser dans la conscience du peuple ce magnifique hymne de la victoire de Dieu. Elle était respectée et reconnue parmi les Israélites, et elle était un instrument oint de Dieu. Certains diront, « Oui, mais elle n'a servi qu'à exercer un ministère auprès des femmes parce qu'elle chantait devant les femmes qui dansaient. » Eh bien, je pense que c'est contestable. En fait, nous allons maintenant nous intéresser à une autre femme qui a eu affaire non seulement aux femmes, mais aussi aux hommes. Elle s'appelait Déborah. Cela se passe à l'époque des juges. Pour la petite histoire, cela apparaît dans l'histoire d'Israël avant que la nation d'Israël ait un roi. C'était ce qu'on appelait une théocratie. Dieu était le roi et occasionnellement des juges régnaient sur le pays et ils étaient la personne la plus haut placée pour gouverner en Israël sous l'autorité de Dieu. Israël a connu ce cycle pendant plusieurs centaines d'années, au cours de la période des juges. En résumé, cela se passait ainsi. Israël avait une saison, une période de paix et de bénédiction, qui durait parfois une décennie, parfois 30 ou 40 ans. Puis le peuple d'Israël oubliait Dieu. Il l'oubliait, il péchait et se tournait vers le culte des idoles. Leurs ennemis venaient les conquérir et les persécuter pendant un certain temps. Ils soumettaient Israël et finalement, le peuple de Dieu se repentait et implorait la miséricorde de Dieu. Dieu répondait en établissant un libérateur ou un juge qui apportait la victoire au peuple. Je voudrais prendre l'histoire en Juges 4, au temps de l'un des juges d'Israël nommé Ehud. C'est la fin d'une période de 40 ans de paix, les Israélites avaient échappé à leurs ennemis. Il est écrit en Juges 4, 1 à 5. Les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après la mort d'Ehud. L'Éternel les vendit alors à Jabin, le roi de Canaan qui régnait à Hatsor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Rochet-Goïm. Les Israélites crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et les opprimait avec violence depuis 20 ans. À cette époque, Déborah, une prophétesse mariée à un certain Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers elle pour être jugés. Déborah est la seule femme à avoir accédé à la fonction de juge. Elle est la seule que Dieu ait placée à ce poste avec le consentement du peuple. D'un point de vue historique, elle fait partie de la catégorie de Jeanne d'Arc qui, quelques 27 siècles plus tard, conduira les Français à la victoire en chevauchant devant eux. Le nom de Déborah, qui signifie « abeille », est tout à fait approprié car elle était très active. Elle récoltait du miel pour ses amis et avait un dard mortel pour ses ennemis. C'est ce qu'ont expérimenté les Cananéens. Nous lisons au verset 4 qu'elle était la femme d'un homme appelé Lapidote. Quel que fût son rôle, il n'était pas aussi important que celui de sa femme, Déborah. Il a dû s'adapter à un mode de vie très différent de celui de la plupart des hommes. Il était marié à une femme célèbre, qui était appelée à diriger, qui était appelée à exercer un ministère. Cela demandait beaucoup d'adaptation, et il devait soutenir ce que Dieu appelait Déborah à faire. Cela ne signifie pas qu'il n'était pas le chef de famille. Cela ne veut pas dire qu'elle portait la culotte dans la relation. Mais je vous garantis qu'en tant qu'homme, à cette époque, Lapidote a dû faire face à son ego. Je tiens à vous dire que si vous épousez quelqu'un qui est appelé à exercer un ministère, vous devez prendre tout cela en compte. La vie d'un pasteur, d'un leader au sein du peuple de Dieu, n'est pas facile. Vous serez confronté à des défis que vous ne rencontrerez dans aucune autre vocation ni aucun autre appel. Certaines choses sont similaires, mais d'autres ne le sont pas. Apparemment, cela fonctionnait pour Lapidote et Déborah, car son ministère était extrêmement fructueux. En réalité, il est très difficile d'avoir un ministère fructueux quand on a un mariage malheureux. Encore une fois, nous lisons au verset 4 et 5 qu'elle était une prophétesse et qu'elle jugeait Israël. Le verset 5 dit « Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers elle pour être jugés. » Les Israélites montaient vers elle pour être jugés. Le mot « jugement » signifie littéralement un verdict ou une sentence judiciaire, un décret formel. Les paroles de Déborah faisaient office de loi. Elle était la plus haute autorité de la nation sous l'autorité de Dieu. Je sais que certains ont du mal à entendre cela, mais c'est la vérité. Je n'ai rien inventé. C'est dans votre Bible, mon ami. Israël était Déborah était la juge d'Israël à cette époque. Elle était la plus haute autorité de la nation sous l'autorité de Dieu. Une autre réflexion intéressante, pourquoi s'est-elle assise sous le palmier en public? L'histoire juive nous dit que c'est parce qu'elle refusait d'être seule avec un homme dans sa maison. Je pense que nous pouvons en déduire que c'était une femme vertueuse qui n'allait pas donner l'occasion à la chair de s'exprimer. Combien de leaders que nous connaissons sont tombés dans la tentation de l'immoralité sexuelle parce qu'ils se sont laissés entraîner dans des situations compromettantes? Les Écritures nous disent d'éviter les lieux mêmes de la tentation. Un jour, j'étais orateur lors d'une grande conférence. Un autre de mes amis était présent. Il était accompagné de quelques personnes du ministère. C'est formidable. La plupart du temps, je voyage toujours avec quelqu'un. Je pense que c'est une bonne chose. Lorsque je le peux, j'emmène un jeune homme avec moi pour l'encadrer, mais je le fais aussi pour le mentorer. Cela dépend de l'endroit où je vais et de la situation. Mais il était à cette conférence et il était accompagné d'une secrétaire, pas de sa femme, mais de sa secrétaire. Je l'ai interrogé à ce sujet, il m'a répondu que sa femme n'avait pas voulu faire ce voyage. Il faut comprendre que c'était avant l'époque des téléphones portables. Nous n'avions pas d'Internet à l'époque et il n'était donc pas possible d'accomplir tout notre travail de manière électronique et digitale. Cela n'existait tout simplement pas à l'époque. Nous utilisions encore des machines à écrire et les ordinateurs étaient énormes. Il m'a dit, j'avais besoin de tel et tel service, et elle est là pour accomplir ce travail, et j'avais besoin qu'elle soit là parce que je suis impliqué dans telle et telle chose. Sa raison était semi-légitime, mais je l'ai pris à part et je lui ai dit, écoute, tu es un idiot. Tu es un beau garçon. C'était en effet un beau garçon. Je lui ai dit, c'est une jeune fille séduisante qui t'admire non seulement parce que tu es un beau garçon, mais aussi parce que tu as un rôle de leader dans le royaume. Je peux déjà dire, à la façon dont elle te regarde, qu'elle t'admire vraiment. Tu t'exposes à une chute morale. Il a bafouillé et a dit, non. Je lui ai dit, arrête. J'ai vu cela se produire trop souvent. Je te dis simplement que tu es un idiot, tu dois régler ce problème. Tu ne devrais plus jamais faire ça, ne voyage plus jamais avec une jeune femme comme ça. À sa décharge, il a suivi mon conseil et à ma connaissance, il n'a plus jamais fait ça. J'ai vécu la même chose avec d'autres amis. J'ai fait un autre voyage juste après cela. En fait, il se trouve que j'étais dans le même pays. C'était une conférence différente et un autre homme était orateur à la conférence. Il n'avait pas emmené son assistante personnelle avec lui. Il en avait amené deux. Deux jolies filles travaillaient avec lui et il avait besoin d'elles pour le soutenir dans tout son travail. Entre les réunions, il les emmenait faire du shopping au centre commercial. C'était une simple connaissance pour moi. Je ne pouvais pas vraiment lui en parler, mais j'en ai parlé à d'autres hommes qui étaient proches de lui. Je leur ai dit qu'il devrait lui en parler, que ce n'était pas bien, ça semblait mal, c'était tout simplement stupide. Ils lui ont parlé et il les a complètement ignorés. Mais au bout d'un an, il avait couché avec l'une de ses filles et avait détruit son mariage. Il s'est avéré que la fille avec laquelle il a couché était aussi mariée. Elle travaillait pour lui, mais c'était la femme d'un de ses bons amis. Il n'a pas seulement détruit son mariage, mais également celui de quelqu'un d'autre. Dans l'histoire de Déborah, nous lisons qu'elle ne s'asseyait qu'en public, sous le palmier, là où les gens venaient à elle et où elle rendait des jugements. Elle savait qu'il suffisait d'une erreur pour détruire beaucoup de choses. Elle savait que les enjeux étaient élevés. Mon ami, ils sont toujours élevés. Vous qui m'écoutez en ce moment, même derrière votre écran, que vous soyez dans le ministère ou simplement un chef d'entreprise chrétien, vous passez peut-être de longues heures dans votre bureau. Vous avez beaucoup de responsabilités. Votre secrétaire ou votre assistante personnelle est avec vous tous les jours. Vous côtoyez une jolie jeune fille au quotidien. Elle vous perçoit d'une manière que peut-être votre femme à la maison ne vous perçoit pas. Elle vous voit quand vous faites face à la critique et que vous réagissez comme un homme. Et elle admire cela. Elle vous voit quand on vous attaque injustement et elle voit que vous faites face à cela d'une manière pieuse. Elle vous écoute prêcher ou faire ce que vous faites. Elle vous voit dans ce rôle de leader et il y a quelque chose d'attirant à cela. Vous êtes là avec elle, vous êtes fatigué. Il ne faut pas grand-chose. Il suffit qu'elle ou vous posiez une main réconfortante sur l'épaule de l'autre pour qu'une chose en entraîne une autre. Vous vous dites peut-être « Oh non, 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 Bayless, jamais ». Écoutez, c'est arrivé à de meilleurs hommes et de meilleures femmes que vous. Vous devez faire preuve de sagesse et ne pas vous mettre dans une situation compromettante, car si vous faites une erreur, vous ne serez pas le seul à en souffrir. Cela affectera votre famille et vos enfants. Cela affectera ceux qui vous admirent et les autres chrétiens. Dans certains cas, le diable s'en sert pour creuser un fossé entre certaines personnes et Dieu. Je n'avais pas prévu de dire tout cela, mais je sens nettement que le Saint-Esprit m'y conduit. Quelqu'un qui m'écoute a besoin d'entendre ceci. J'avais terminé mon message à la fin d'un service et je donnais ce que nous appelons un appel à l'autel. Nous invitions les gens à donner leur vie à Christ et à se repentir de leurs péchés, à mettre leur confiance en lui et à l'accepter en tant que sauveur. Je me suis adressé aux fils et aux filles prodigues présents dans la salle. Je me suis senti conduit à dire ceci. Il y a quelqu'un ici qui admirait un pasteur. En fait, c'est peut-être même l'homme qui vous a marié et qui vous a servi de mentor. Et cet homme a commis une faute morale. Cela vous a mis en colère et vous a rendu amer, et c'est devenu un fossé entre vous et Dieu, une excuse pour vous éloigner de Dieu. Un couple est venu me voir après le culte. C'était la première fois qu'il venait. L'homme a dit, « J'ai du mal à y croire. Nous n'avions pas l'intention de venir ici aujourd'hui. J'étais dans le ministère, j'étais pasteur adjoint, et j'étais encore un jeune homme à l'époque. L'homme qui m'avait servi de mentor, qui m'avait enseigné le ministère, qui m'avait enseigné l'éthique, qui m'avait enseigné la parole de Dieu, s'est mis à fréquenter un certain nombre de femmes. Il a fait une grosse bêtise. J'étais tellement déçu et tellement en colère contre lui et contre Dieu. J'ai vu comment cela affectait tant de gens. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à dériver. Je viens de réaliser que c'était le moyen que le diable utilisait pour s'interposer entre moi et Dieu. C'est devenu mon excuse. J'ai quitté le ministère. Cela fait des années que je n'ai plus de relation avec Dieu. Il pleurait. Sa femme était là, ils étaient tous les deux très doux. Nous avons prié et il a reconsacré sa vie à Jésus. Ça avait été une partie des conséquences. Cela ne veut pas dire qu'il a bien fait de réagir ainsi, mais c'était une partie des conséquences de l'erreur de cet homme. Écoutez-moi, leader, les enjeux sont considérables. Nous ne devons pas nous contenter d'apporter un message juste, nous devons vivre une vie juste. C'est tellement, tellement important. Poursuivons et parlons un peu plus de Déborah. Il est dit qu'elle était prophétesse. Elle connaissait le dessein et le plan de Dieu. Elle communiquait la pensée de Dieu au peuple de Dieu. Pour être prophétesse, elle devait exercer certains des dons du Saint-Esprit, le don de la prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse. Dans les versets 6 et 7, nous voyons que son don prophétique entre en action. Dans ce même chapitre, Juges 4, 6 et 7 dit « Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam, originaire de Kedesh, Naphtali, et elle lui dit « L'Éternel, le Dieu d'Israël, t'a donné l'ordre suivant. Vas-y, prends la direction du mont Tabor en emmenant 10 000 hommes des tribus de Naphtali et de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent du Kisson, Sisera, le chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Elle a dit à Barak ce que Dieu voulait faire et lui a même dit comment l'ennemi, le chef Sisera, allait réagir. Le verset suivant, le verset 8, dit « Barak dit à Déborah, « Si tu viens avec moi, je partirai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. » En raison d'une longue période d'esclavage et d'échecs répétés, Barak n'a pas eu la confiance en Dieu qu'il aurait dû avoir. Il était hésitant. Il n'était pas sûr de lui, mais elle l'a aidé et l'a incité à partir. Nous lisons dans le verset suivant, le verset 9, elle répondit, « J'irai donc avec toi, mais tu n'auras aucune gloire sur la voie où tu t'engages, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. » Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kedesh. Encore une fois, son don prophétique est à l'œuvre. Elle dit, « Tu n'auras pas la gloire, Dieu donnera la gloire à une femme. » Bien sûr, nous lisons dans la suite de l'histoire que Sisera s'enfuit de la bataille. Il est épuisé, il s'enfuit et arrive dans un petit village où il demande asile à une femme. Il entre dans sa tente, dans sa maison, elle lui donne à boire, il est fatigué. Il s'allonge pour dormir un peu, il est tellement fatigué par la course et la bataille. Pendant qu'il dort, elle s'approche furtivement de lui et lui enfonce un pieu de tente dans la tempe. Barak n'en a pas tiré gloire. Dieu a utilisé une femme pour vaincre le chef de l'armée. Déborah a prophétisé cela par l'Esprit de Dieu avant même que cela ne se produise. Nous arrivons ensuite aux versets 13 à 15. Ce sont des versets très intéressants. Et, depuis Haroshet Goïm, Sisera rassembla vers le torrent du Kisson tous ses chars, 900 chars en fer, et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi ?» Barak descendit du mont Tabor avec 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute Sisera, tous ses chars et tout le camp, et les livra à l'épée de Barak. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Vous connaissez la suite. Déborah dit, « Debout, c'est le jour, allons-y !» Une femme aux commandes, inspirant et motivant un leader hésitant et une nation qui n'a connu que l'esclavage et l'oppression au cours des 20 dernières années. Écoutez, elle n'agit pas dans le cadre d'une autorité usurpée. Elle agit dans le cadre d'une autorité donnée par Dieu et reconnue à la fois par Dieu et par le peuple. Elle n'était pas autoritaire, elle n'était pas insistante, mais elle répondait simplement au rôle que Dieu l'avait appelée à remplir. Remercions Dieu pour des femmes comme celle-là, des femmes qui n'essaient pas d'être un homme, qui ne cherchent pas à dominer les hommes, qui n'essaient pas de prouver qu'elles sont aussi bonnes qu'un homme, mais qui sont féminines à tous égards, et qui, en tant que femme, dirige. Je veux simplement vous encourager, mesdames, en tant que femmes, à répondre à l'appel de Dieu dans votre vie, tout en restant féminine. Dieu a fait de vous une femme, il n'a pas fait de vous un homme. Vous n'avez pas à agir ou à parler comme un homme. Vous pouvez être entièrement féminine et être utilisée comme leader. Déborah pouvait non seulement prophétiser, inspirer et gouverner, mais elle pouvait aussi écrire. Le chapitre 5 des Juges s'appelle le Cantique de Déborah et est attribué à Déborah elle-même. Les versets 1 et 2 disent « Ce jour-là, Déborah chanta le cantique que voici avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. C'était un jour où des chefs se sont mis à la tête du peuple et elle était l'un d'entre eux. » C'est très intéressant. Au verset 7, Déborah écrit « Les chefs étaient sans force en Israël, sans force, quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. » Quelle déclaration intéressante, une mère en Israël. Les gens avaient peur de l'ennemi derrière les portes closes, derrière les murs de la ville, jusqu'à ce que cette femme se présente comme une mère en Israël. Elle n'avait pas d'enfant naturel, du moins d'après ce que nous savons, mais elle était une mère sur le plan spirituel. Les mères enseignent, elles encouragent, elles inspirent. Elles aident à orienter leurs enfants. Déborah l'a fait avec de nombreux Israéliens. Nous avons besoin de mères dans l'Église aujourd'hui. Paul a dit, même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Je pense que ce principe s'applique également aux mères. Quelques très chères personnes m'ont accompagné quand j'ai été sauvé. Une femme âgée en particulier m'a béni, elle a prié pour moi, elle m'a encouragé et elle m'a enseigné des choses qu'elle connaissait. Elle m'a grandement aidé. Son but, comme celui de Déborah, n'était pas de créer une dépendance à son égard, mais de tourner les gens vers le Seigneur et d'encourager une dépendance à l'égard de Dieu. J'aurais aimé avoir plus de temps. Je reprendrai ce sujet la prochaine fois parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Remercions Dieu pour Déborah et pour sa parole. Remercions Dieu pour cette femme qui était une leader parmi le peuple de Dieu. Je prie pour que Dieu vous bénisse abondamment, où que vous soyez. Qui que vous soyez, Dieu vous connaît et vous aime.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.
Vous êtes épuisé? Vous traversez une crise et vous ne savez plus quoi faire? Procurez-vous le livret gratuit « Saisissez la force de Dieu » de Bayless Conley. Vous y trouverez 4 étapes qui vous aideront à aller de l'avant avec une force renouvelée. Il vous suffit de vous rendre sur bayless-conley.fr/force. Vous pourrez y télécharger gratuitement le magazine au format PDF. Vous allez voir, Dieu vous réserve de bonnes choses.